micro-politique des groupes pour une écologie de pratiques collectives. Rencontre avec David Verkauteren.
Tant que l'histoire des pratiques collectives ne sera pas racontée par celles et ceux qui la vivent et la construisent, ce sont les historiens qui s'en chargeront. Proverbe du pays des deux lacs. Un passe-passage.
Pour nous, c'était important de se situer à l'intérieur de ce travail sur la micropolitique des groupes. Et se situer, c'est dire bon, d'où on parle, dans quel engagement on est pris, et à partir de là, comment on déploie les questions. Donc, ces questions-là viennent de nos difficultés rencontrées dans les pratiques collectives et à partir des difficultés à pouvoir les penser, les prendre ensemble. Et donc à partir de cette première fois, on va dire, où elle émerge collectivement, après chacun individuellement a eu des trajets différents à l'intérieur de ça, mais autour du collectif sans nom, donc expérience d'un centre social occupé en fin des années 90, début 2000, expérience de réappropriation d'un bout de territoire pour développer un différent type de pratiques collectives basées sur la question de l'autogestion et de l'auto-organisation et développant des différentes formes d'intervention publique passant par les sans-papiers, le chômage, la malbouffe, etc. tout en développant une existence propre à l'intérieur avec des gens qui logeaient des faits, donc notre mot d'ordre à l'époque, si on peut dire ça comme ça, était directement hérité un peu des mouvements de 95-97 en France qui, une partie, avait pris comme leitmotiv résistance et exister. Et donc pour nous, ce geste était indissociable. Il s'agissait de résister, mais en même temps de produire une forme d'existence qui la complète et vice-versa. Et bon, déjà rien que dire ça, c'est marquer un type de choix et d'orientation politique où la question de la subjectivité ne peut pas être déliée du faire politique ou de l'organisation. Et bon, on avait à l'intérieur de ce projet notre intuition politique, si on veut, elle était d'essayer de créer des liens, des transversalités autour de différentes figures de bagarre, différents sujets politiques, si on peut dire ça comme ça, autour de la figure des sans-papiers, autour de la figure du chômage, autour de la figure... différentes figures, et essayer que le collectif sans nom devienne lieu et possibilité de cette transversalité, de construire à partir de là cette possibilité politique. Donc comme lieu territorial, physique, on peut y venir, y rentrer, y sortir, c'est un lieu où ça discute, ça boit, ça danse, lieu de rencontre et lieu à partir de laquelle on commence à aller vers l'extérieur. Des centres fermés, des institutions publiques pour les occuper, rencontrer d'autres, etc. Donc il y a toujours ce mouvement de va-et-vient. Et on avait imaginé le collectif sans nom comme une forme de possibilité de transversaliser ces différentes figures et donc de faire en sorte d'essayer de créer ce qu'on peut gagner à droite de l'accompagner à gauche, c'est-à-dire dans cette perspective qui était la nôtre, donc où il n'y a plus un sujet unifié politiquement, mais il y a des sujets, une multiplicité de sujets de revendication. Il n'y a plus un lieu de conflictualité, mais une multiplicité de lieux. il s'agit en même temps de penser les compositions entre ces différents lieux. Pour pas ce qu'on gagne à droite, on le perd à gauche. C'était un peu notre ambition. Et là, on s'est trouvé politiquement et puis organisationnellement dans cette difficulté à penser ce qu'on va appeler après la question de la micropolitique. On était sensible à cette question, elle n'était pas éloignée de nous, mais la faire vivre et la faire exister, il y avait comme un fossé, on n'arrivait pas à la prendre avec nous. Et donc ça a été, si on veut, à la fin de cette expérience, qui a duré deux petites années, on s'est retrouvé pris à se dire, bon, on va essayer de se quitter bien, on va essayer de faire en sorte que cette fin d'expérience se termine pas n'importe comment, d'essayer d'apprendre un tout petit peu sur ce qu'on a vécu, d'aller voir dans d'autres projets en Italie, en Espagne, comment ils ont fait pour passer tel problème qu'on a rencontré, dans lequel on était. Et donc on s'est donné plusieurs mois pour rechercher, essayer un peu de comprendre les impasses dans lesquelles on était tombé. Et qui devait se terminer par une semaine d'action sociale, comme on l'appelait à l'époque, où à l'intérieur de ça, il y avait deux, trois jours de discussion avec différents autres groupes sur les questions d'organisation politique, les problèmes qu'on avait rencontrés et nos difficultés à pouvoir les dépasser. Et donc voilà, ça a été la première irruption, si on veut, au premier événement de cette question de comment on se démerde avec nos pratiques collectives, comment on les pense, comment elles ne deviennent plus dissociées de notre action politique. À la fin de cette expérience, à quelques-uns, on l'a prolongée à travers le collectif Sans Ticket. Et là, étrangement, encore une fois, on l'a un peu oublié, cette question, au fil du temps. Alors, on peut se dire, après, tiens, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience au niveau du collectif Sans Ticket, on a appris beaucoup de choses au niveau des transports, de la SNCB, on a fait une recherche là, on a rencontré des cheminots à tous les niveaux, on a rencontré plein d'acteurs du champ de la mobilité, comme on dit, on a fait une série d'actions politiques, on a appris, on est devenu d'une certaine manière, comme on l'appelait à l'époque, des contre-experts de ce champ-là. On avait développé une certaine forme d'expertise du point de vue du bas, comme on le disait, du point de vue des usages, du point de vue de cette conflictualité-là, en tout cas celle qu'on voulait mener. Mais bizarrement, au niveau même de notre manière de faire groupe, on avait appris peu de choses. On s'était peu transformé nous-mêmes dans ce cheminement. Ce qui fait que il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, n'étant pas très attentif à ces mouvements des désirs et à ces forces qui s'emparent de notre processualité, on s'est retrouvé à un moment donné, après 4-5 ans, dans des impasses au niveau de la pensée, dans le fait que il y avait tellement de choses qui s'étaient liées à nous comme une toile dont on ne connaît plus les fils, que quand on abordait un sujet pour arriver à le déplier, on sentait qu'il fallait ouvrir plein de boîtes, mais que notre temps de réunion ne le permettait jamais. Donc on se retrouvait une certaine forme mis dans une impuissance à penser nos actions, où on en était, Et avec ça, évidemment, ça joue là-dedans, la question d'un désir qui, pris dans cette toile, commence à s'assécher. Et ça passe, bon, très concrètement, par des sentiments de fatigue, d'épuisement, plus trop d'énergie, l'envie de partir, d'aller voir ailleurs. Et donc là, encore une fois, on a pris, et bon, c'est le problème de cette difficulté qui a été la nôtre pendant des années, d'arriver à lier un peu un regard sur la manière dont on chemine ensemble et nos interventions collectives puis politiques, c'est que du coup, cette éruption du corps, si on peut dire, cette éruption de cette question, qu'est-ce qu'on est en train de foutre ensemble, comment on le vit, qu'est-ce qu'on a appris là, arrive toujours à la fin. Donc, c'est ce que Isabelle, dans un des travaux qu'on a fait à ce moment-là, nous dit, mais tiens, comment se fait-il qu'il s'agit de penser la question de l'évaluation à sa fin, et non pas pendant. C'est simplement le fait qu'il nous était difficile, on ne voyait pas, c'est une question de perspective, hein, c'est pas qu'on ne connaissait pas la micropolitique, bon, je veux dire, on est attentif, on avait lu Guattari déjà avec ses expériences qu'il compte dans psychanalyse et transversalité, toutes ces recherches-là qui s'effectuent.
De n'en faire pas assez, c'est celle à qui on a cessé de dire il faut être une bonne petite fille. Donc de retrouver en soi les marques de cette société qu'on n'aime pas. Donc dépsychologisation, mais pas du tout dépersonnalisation au sens de pouvoir de la personne. Dépersonnalisation au sens de moi. Mais personnalisation au sens où la personne devient et se renforce dans justement le type d'interaction vivante, exigeante, qui ont réussi à se créer avec les autres. Et dans ce savoir, que ce qu'elle devient, elle le doit non pas à un savoir, non pas à un autre ou à un grand autre, elle le devient grâce au réseau de relations que ce groupe a réussi à constituer. On ne devient pas seul, on devient avec.
On ne s'en tire pas seul, on ne s'en sort qu'ensemble. Voilà un pari loin d'être désespérant. Pas facile, certes, mais qui donne du souffle, qui réaffirme cette ambition humaine de tenter de construire des collectivités vivantes, ouvertes. Chercher et trouver quelquefois en elles, dans leur environnement, ce qui peut les nourrir, leur donner des forces ou les aider dans leur parcours, les résistances et les luttes qu'elles mènent. Ne pas trop se refermer sur soi, ne pas hésiter à se confronter, à se mettre en risque. Aller voir ailleurs, l'inconnu, ce qui fait vaciller l'une ou l'autre certitude, ou déstabilise les habitudes du groupe. Des groupes donc jamais finis, sauf à mourir. Une myriade de collectivités ne se pensant pas comme unique, mais attentive à l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent, à la recherche de toutes ces petites choses qui peuvent alimenter l'imaginaire, le nourrir de saveurs diverses. Enfin bref, tous ces petits ingrédients, toutes ces recettes qui ne sont pas des vérités éternelles, des solutions clés en main, mais de fragiles bricolages qui rendent le devenir possible.
Désir de fabriquer un territoire où se déploierait et se cultiverait à la fois une sensibilité aux mutations qui le parcourent, une agilité dans la capacité à nous penser et un art du bricolage dans nos manières de faire. Nous nous retrouvons souvent enfermés dans des histoires qui tissent au fil du temps des nœuds, des goulets d'étranglement. À force, ceux-ci pèsent, alourdissent les gestes et les idées. bien nous sommes tout simplement pris dans des routines. On ne sait même plus qui les a inventées. Désir de s'alléger un peu la vie de toutes ces morales et théories qui viennent prescrire notre quotidien tout en nous rendant impuissants à le comprendre. Évaluer. Pour parler d'évaluation.
Mais oui, parce qu'il y a différents sens. Il y a le sens que tu viens de dire, donc qui est le sens majoritaire, le mot d'ordre, un des mots d'ordre d'aujourd'hui, avec tous ces dégâts qui s'opèrent. Et puis bon, tu as un autre sens qui nous vient de Nietzsche, qui est évaluer les types de forces qui s'effectuent à même nos corps, à même nos projets, qui est un autre type d'évaluation, là, qui est au sens premier de mettre des repères et des intensités entre des événements, des choses, des mots qui s'effectuent dans une dimension collective. Et donc c'est dans ce sens-là que on l'entend. Alors bon, c'est les poisons des mots. Ce mot évalué, on l'a gardé, on a choisi de le garder parce qu'on n'en a pas trouvé d'autre pour l'instant. Alors soit on est toujours pris dans ces bagarres avec les mots. En même temps, ces formes d'appropriation de ces mots par le management aujourd'hui, d'autre part, ces histoires de mots où il y a d'autres couches, ou d'autres manières, d'autres sens à lui conférer, à lui donner. Et donc, dans ce rapport-là, on a décidé de le garder. Mais comme il est, ce texte-là commence par une critique, justement, de ce terme d'évaluer, pris dans son sens dominant, pris dans son sens de cette culture, dans cette culture où on demande de plus en plus à ce que le propre agent évalue, ou le propre travailleur évalue par lui-même et s'autocontrôle par lui-même au niveau de ce qu'il doit réaliser comme type de production, comme type de résultat. Et qu'après coup, on pourra lui dire « Mais monsieur un tel, vous aviez dit que vous alliez être réalisé telle chose, vous ne l'avez pas fait, comment vous nous l'expliquez ?» Garder le terme évalué, c'était un peu dans ce sens-là, dans un autre sens, c'était de lui donner plus cette consistance qui s'agit dans les actes même de ce que nous sommes en train de faire, de devenir, de penser et d'évaluer les forces qui s'emparent d'un groupe, qui impliquent des types de direction, qui impliquent des types de cheminement, qui impliquent des types de rapport à soi et aux autres, et c'est de penser, et donc là d'évaluer ce qui est en train de s'emparer du groupe. C'est dans ce sens-là, évaluer. Si on peut utiliser un autre terme qu'on a pris là et qu'on a mis là, qu'on a inventé pour le coup, c'est le terme de pas de côté. Donc, où la question n'est plus tellement d'évaluer tout chemin, c'est ça la perspective, c'est pas d'évaluer tout un chemin fait à partir d'un résultat. Comme ça se fait en règle générale. Donc en règle générale, les projets, c'est on réalise tel événement, tel spectacle ou telle action ou telle ou telle chose. On va mettre sa programmation et après le résultat, on va évaluer, voir si c'était bien. On va rectifier pour que la prochaine fois, ça sera un peu mieux. Et est-ce qui est gommé évidemment dans tout ça, c'est la manière dont le chemin fait que le résultat compte, mais est pris en compte comme moment déterminant du processus, et non plus comme une étape qu'on va regarder après coup, et où s'impose dans une culture où l'objectif prime, dans une culture où le résultat prime, où va s'imposer au fil du temps des types de forces, dont celle de l'urgence, très classique, où au départ on a beaucoup de temps, et puis au plus que l'événement approche, au plus le temps devient un critère et un facteur déterminant, et on va enlever un certain nombre de choses qui, soi-disant, ne nous intéressent plus, parce que font perdre du temps par rapport à quelque chose qui est plus important, qui est le résultat, qui est la réalisation de telle action, de telle dimension. Et donc, la question du pas de côté à l'intérieur de ça, c'est essayer de penser nos processus à partir du milieu, à partir de ce qui est en train de venir, à partir de ce qui est en train de s'opérer, à partir de critères qui sont... qui sont des critères à même le projet. Ce qu'on ressent, c'est les types d'énergie que ça produit, les types de capacités, les types de lenteur et de vitesse que notre projet permet ou pas. C'est ces dimensions-là qui sont pour nous essentielles. Une réunion, si on en fait une, deux ou trois réunions et qu'à chaque réunion on en sort desséché, fatigué, emmerdé, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est de ça qu'il s'agit de penser. C'est pas de mettre ça de côté au profit de quelque chose qui serait supérieur, qui serait un objectif général, une lutte à mener, un point de « c'est important parce qu'on ne peut pas se le permettre ». Alors c'est toute la culture de « il faut faire ça parce que là, Sarkozy ou un tel a mené telle action et on doit agir ». Donc on a toute une forme de... Voilà, c'est comme s'il y a un dieu qui revient, qui dit « vous, petit homme, vous devez le faire ». Et donc toute la question de comment ça se vit, comment ça se compose, sous quel régime de force, de capacité, d'affect, tout ça évacué n'a pas d'importance, parce qu'il y a quelque chose de transcendant qui dit que telle lutte politique, tel enjeu culturel est plus important que ce qui se passe là. Et donc de rapatrier, si on veut, toute cette question de l'énergie au sein même du groupe, comme élément et comme critère d'action politique, pour nous est important. Et donc le pas de côté, c'est cette possibilité, à même le chemin, de faire là, très physiquement et mentalement, un retour sur le processus qui est en train de se faire. Et de modifier le processus, c'est-à-dire la manière dont on engage nos mots, nos directions, nos perspectives, dans le chemin même. Et donc de ne pas attendre un après quand finalement le truc est déjà passé. C'est-à-dire, en gros, attendre l'après, c'est avaliser les types de forces qui se jouent, souvent dans leur silence, au nom d'autres impératifs, ou au nom des grandes gueules, ou au nom des guerriers qui amènent leurs troupes. Et donc là, on commence à rentrer dans toute une politique de la mobilisation. Et au profit de tout ce qu'on connaît souvent, c'est-à-dire des silences, des départs dont on ne sait pas pourquoi, ou quand il y a un rapport de force qui est plus tendu par des explosions de colère, de conflictualité, qui se passe sous un mode pas très intéressant. Enfin, la question de la colère et de la conflictualité est quelque chose d'évincé, pas du tout, mais qu'il s'agit de l'effectuer d'une certaine manière, si c'est pour que celle-ci se transforme en conflictualité du jugement, autant se dire que c'est pas très intéressant. C'est-à-dire, en gros, que les groupes, même de gauche, là, très classiquement, reproduisent la forme du procès en interne, reproduisent des formes de jugement et de qualification, de personnalisation, de psychologisation, enfin, toutes ces scènes qu'on connaît, qui va être dénoncé par ailleurs, mais qui va être reproduit en interne. Bon, je dis, tout ça, c'est des signes de cette difficulté à penser ces mouvements, ces directions, ces forces qui s'emparent d'un coup à un moment donné, et de faire en sorte que ces forces-là agissent, et que ces forces-là ne sont pas forcément personnelles. Elles traversent les personnes, elles traversent des contextes, elles traversent des histoires, on est inscrit dans des époques, et celles-ci irriguent le groupe, le traversent et le travail et le traversent, et il s'agit de les prendre en compte.
Y compris les formes réactives, colériques.
Oui.
Les coordonnées d'un monde tant social que au plan cosmique, affectif, etc.
Je vous entends donc, tout le monde entend vaguement.
Hein? Bon.
Vous voulez pas venir là, vous aimeriez.
C'est censé capitaliser l'information par une toute petite unité distinctive, type lettre, même un certain type d'articulation très épurée de phonèmes, avec une syntaxe parfaitement polissée. Mais il y a corrélativement toute une série de composants sémiotiques qui concourent à quelque chose qui n'est pas spécifiquement une transmission d'information, mais qui est une sorte de vie libidinale de l'ensemble du groupe, qui peut s'exprimer aussi bien par des mots que par des mimiques, des danses, des tatouages, des rituels, etc. Parce que c'est ça que j'appelle les différentes composantes sémiotiques. On arrive à un ordre à l'autre bout de la chaîne, actuellement, où pour transmettre quelque chose, on peut le transmettre avec une série de messages transmis par un ordinateur. Aujourd'hui, désigner quelqu'un, ça peut être prendre un certain type de numéro qu'on fait passer dans un ordinateur, et ça peut parfaitement qualifier non seulement la localisation de la personne, mais l'ensemble de son comportement, de sa liberté, ses potentialités économiques, etc. Alors, entre-temps, je dirais, si vous prenez une image, il y a eu effondrement sémiotique, en ce sens que les modes d'énonciation collective qui intriquaient, articulaient les uns aux autres de façon indissoluble les différentes composantes sémiotiques, gestuelles, mimiques, prosodiques, linguistiques, etc., se sont trouvés réduits de telle sorte qu'il y a toujours l'impossibilité de les traduire en termes de quantité d'informations. Le travail de l'apprentissage de la langue, le passage de la langue bébé à la langue de l'école, de la langue de l'école à la langue professionnelle, etc., c'est amené à rendre les individus capables, quelle que soit la polyvocité de leur désir, d'arriver à cette réduction possible, qui est essentielle effectivement au système de production, au système d'échange, puisque seuls peuvent être mis en circulation des gens qui sont traductibles en termes d'informations dans le système économique, dans le système de production. Ou sinon, ce sont des fous, des marginaux, des poètes, je ne sais pas quoi. Et alors, ils sont eux-mêmes renvoyés à des instruments particuliers pour les traiter, à des institutions qui vont tenir compte de ce phénomène marginal. Alors, cette opération d'effondrement sémiotique fait qu'aujourd'hui, on ne peut énoncer quoi que ce soit de son désir, de sa vie, que pour autant que c'est compatible avec la machine informatique de l'ensemble du système, aussi bien capitaliste que socialiste bureaucratique, enfin, de tous les systèmes, disons, à État, pour reprendre la classification de classe. Du coup, la seule subjectivité de référence possible, c'est celle qui rend compatible avec l'espèce humaine en général, l'espèce humaine des sociétés à État, la citoyenneté, quelque chose de cet ordre. On n'a donc plus le même rapport avec la particularisation de l'énonciation qui consistait à dire... les Indiens, ils disent que des tribus indiennes disent que seuls sont des hommes les Indiens. Et quand ils voient des Blancs, ils disent que ce ne sont pas des hommes. Donc leur sentiment d'appartenance à une communauté d'expression
est très délimité par l'endroit où il y a cette intrication des différentes composantes sémiotiques. Si, je m'excuse du schématisme abominable qui consiste à prendre un point, deux points aussi éloignés que dans le champ social. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que il n'est possible de se soumettre à ce système de réduction informatique que dans la mesure où sont reconstituées des territorialités, ce que j'appellerais des surfaces de redondance où on puisse articuler ces types d'oppositions.
Point de départ obligé de l'action politique. Nous sommes bien plutôt le point d'aboutissement d'un ensemble de lignes qui concourent à notre fabrication. Comme le souligne Guattari, l'individu est un point de résonance, fruit d'une hétérogenèse entre les multiples composantes de subjectivation.
Et donc finalement, de cette impossibilité qu'un groupe a, par extension, à pouvoir penser son processus parce que son objet glisse en permanence. Et donc il est toujours en train de pulser à droite à gauche, ne pouvant jamais savoir ce qui est en train de s'opérer parce que, comme une savonnette, on essaye de prendre cet objet de désir et il glisse toujours entre les mains. Et ce processus inconscient, on peut s'en rendre compte toujours qu'après coup, par un travail d'élucidation, par un travail, comme ce mot l'indique, de mise en lumière de ces processus inconscients qui travaillent, par un travail de nomination après coup de ce processus. Et c'est simplement, ou peut-être pas mal, d'arriver à, dans le futur, d'être un peu plus vigilant sur cette dimension qui échappe en permanence. Donc on est toujours fait. On est toujours fait, ou plus exactement, on est toujours défait. On est défait, c'est une illusion de pouvoir penser le chemin en train de se faire, de s'installer au milieu. Et donc, on en arrive justement avec tous ces vocables de l'illusion, du manque, de... Bon, je ne sais plus, les différents types de termes qui désignent une pratique par son absence. Évidemment, tous ces mots, il y a beaucoup de mots qui viennent de cette culture psy, où, bon, je ne sais plus, je dis, il y a au moins 19 fois le mot... manque qui vient, 22 fois le mot dialectique, etc. etc. Et on l'avait donné entre autres à Isabelle Stengers, qui nous a renvoyé un petit mail très court en disant c'est beau de mettre une petite pierre sur le chemin. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'une des choses qu'on a appris ensemble, c'est de résister à la psychologisation. Bon, on était un peu surpris par ce mail, on est pris dans notre mouvement. Et du coup, bon, ça nous a obligés à penser, à réfléchir et à aller voir ailleurs comment on pourrait nommer autrement ce qui nous est arrivé et quels vont être les effets de cette autre manière de nommer sur nos corps, nos vies et nos manières de penser les processus collectifs. Du coup, on a fait, et ça a été un des travaux préalables à l'écriture de ce livre, ça a été un détour par Nietzsche, surtout le livre de Deleuze qu'il a écrit sur Nietzsche et la philosophie, où il va traiter toute la question des forces, où il va faire une critique assez radicale de la dialectique et de ce qu'elle implique comme mouvement de pensée. Et en même temps, on va joindre là un autre beau texte de David Lapoujade sur William James, sur la question de penser les idées comme les actions à partir de leurs effets. Quels sont les types d'effets qu'ils produisent. Et donc, à partir de cette lecture croisée, on va commencer à mettre d'autres mots sur et à qualifier autrement nos mouvements qui sont en train de se faire. Et donc de penser la question des processus collectifs à partir de ces vocables-là et à partir de ces effets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se retrouve en groupe, on travaille tel objet, par exemple, aujourd'hui on est à quelques-uns à travailler sur la question du chômage. Quand on va penser une direction, on va penser cette direction, tel projet, tel chemin qu'on va faire pendant les 6 mois qui suivent. On va ouvrir toutes les pistes qui sont présentes à nous et à partir de chaque piste, chaque proposition, de les prendre à partir des effets qu'ils peuvent produire. Tout en sachant évidemment qu'il s'agit d'éprouver. Mais dans un premier temps, de se dire, tiens, qu'est-ce que va produire le fait de prendre telle proposition comme agencement à la suite, dans le projet. Il va avoir des effets sur notre manière de nous rapporter ensemble, de nous rapporter aux autres. Et donc de se dire tout le temps que chaque fois, c'est une perspective qu'on ouvre, c'est un chemin qu'on se dit qu'on va prendre, mais qu'il va falloir l'éprouver. On ne sait pas si ça va marcher. Mais au même moment, on a 4 propositions de chemin possibles. On a 4 chemins possibles, on en choisit une, on se dit, on va la tester, on prend l'hypothèse, pour dire autrement que ce chemin-là peut nous rendre capables de. Si après 3 mois, on se rend compte que ça nous amène dans une impasse, on revient en arrière, entre guillemets. On revient là où on avait décidé de bifurquer. Et on reprend quelque chose de nouveau, on retisse une nouvelle ligne qui nous entraîne vers ailleurs. Et chaque fois, ça va être la question de quels sont les effets que cette proposition entraîne. Est-ce qu'elle nous rend plus capables? Est-ce qu'elle nous amène à penser? Est-ce qu'elle nous permet des rencontres? Et c'est chaque fois ces critères-là qui vont évaluer le type de direction, de changement, de modification de perspective. Et donc, on est ici dans une proposition qui ne regarde plus le passé à partir de son absence, ou son présent à partir de son absence, de son manque, de cette incapacité à, mais à partir d'un futur et comment ce futur on va l'éprouver. Et c'est à partir d'une proposition qu'il s'agit d'éprouver, de tester, de voir au niveau des effets. Si elle ne nous convient pas, c'est que l'idée, c'est pas qu'elle était peut-être pas mauvaise, mais que le rapport entre cette idée et nous ne convient pas pour x, y raison. Peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, cette idée marchera. Prendre un exemple, on avait au niveau donc, de ce groupe Chemin Out, en fin juin dernier, est venu petit à petit dans notre élaboration, dans cette construction d'un « nous » au niveau de notre groupe, avait émergé cette idée de créer un salon des chômeurs. Un salon des chômeurs qui était pour nous une manière de prolonger notre geste, d'ouvrir des espaces où il y a différents types de production liées au chômage qui puissent avoir pignon sur rue, qui puissent exister. Donc, notre problème, ou un de nos problèmes au niveau de ce groupe, c'est celui des modes d'existence. Donc, comment, à partir du carcan majoritaire qui est le nôtre, c'est-à-dire du salariat, du CDI, etc., etc., comment peuvent exister d'autres modes d'existence pris dans des mouvements permanents entre travail et non-travail, si on veut utiliser cette forme-là. Ça veut dire, en gros, que la question du travail et du non-travail ou du chômage, pour nous, n'existe plus. nous arrêtons pas de passer d'un statut à l'autre. À des moments, on peut avoir un contrat salarié pendant 15 jours, puis repasser sur une autre catégorie qui est celle du chômage, d'être indemnisé, et puis repasser là-dedans. Et quand on est au chômage, on fait nos activités au même titre que quand on bosse. Donc on n'arrête pas de circuler, simplement dans le régime actuel, tout étant tourné autour de cette question du salariat, de du CDI, et avec ses implications concrètes qui est cette bagarre menée par les institutions sur de culpabilisation sur les chômeurs, etc. C'est notre problème. Alors, le salon des idées, le salon des chômeurs était une manière de faire exister toute cette pluralité d'activités qui se travaillent à l'intérieur de ça et de construire pour nous des formes de liens, de rencontrer des gens, d'étoffer, si on peut dire, cette composition politique qu'on cherche à faire. Et de nous donner les possibilités de peser ou d'intervenir d'une manière un peu plus forte dans l'espace public. Bon. Alors cette idée était intéressante, elle nous a excités au moment où elle est sortie, etc. Et après la réalisation cet été de cette petite brochure, Showing Up, c'est dit logiquement, en septembre, on se met à se brancher sur cette idée et on se met à travailler dessus. Après un mois et quelques réunions, ça prend pas. Il y a quelque chose, on essaye de bricoler. À chaque fois on sort, c'est lourd, on ne sait pas comment l'apprendre, elle ne nous donne pas d'appétit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc là, on entre dans ce que nous avons appelé une crise d'agencement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose entre une proposition et la manière dont on va l'articuler, la potentialiser, qui ne branche pas. Il y a quelque chose qui... Une crise d'agencement, dans le sens que ça ne dépend de personne. Parce qu'évidemment, quand on se retrouve pris dans une crise, on peut vite emprunter les pentes de la psychologisation, du coup, soit dans sa forme collective, on n'est pas assez motivé, on n'arrive pas, on est incapable, on se flagelle, soit dans sa forme plus individuelle qui va être « oui, c'est de la faute d'un tel, il avait dit qu'il allait faire ce truc-là, mais il ne l'a pas fait, donc on est en retard, et c'est... » Et nous, notre histoire est de résister à ce genre de truc et de prendre la question à partir justement de ces crises d'agencement, donc qui ne dépendent quelque part de personne. On a ralenti, on a essayé de reposer la question différemment pour réouvrir à des nouvelles propositions et de nouvelles manières de cheminer. Donc l'idée du salon du chômeur est tombée à la trappe, disant que pour l'instant on n'en est pas capable, ou que cette idée pour l'instant n'est pas très bonne. Ce qu'on va faire, c'est reprendre cette petite brochure, aller rencontrer différentes personnes, à partir de ces rencontres-là, de voir comment eux, ils éprouvent cette idée, est-ce qu'ils trouvent ça intéressant, comment ils verraient si elle fonctionne ou pas, etc. Donc se nourrir de cette idée et d'autres, par toutes ces rencontres, de se donner d'autres imaginaires, d'autres perspectives, d'autres contacts à réaliser. Donc d'y aller beaucoup plus tranquillement et par proche en proche, d'ouvrir d'autres perspectives qu'on ne voyait pas à partir de notre propre lieu, d'où on parlait. Donc voilà, c'est cette manière de penser les processus collectifs qui est toujours branché sur une dimension de... c'est encore un mot sali, mais énergétique. Donc encore sali dans le sens que depuis un bon bout de temps, la question de l'énergie est chapeautée d'une manière dominante par un certain nombre de, justement, de, par cette culture psy qui a envahi tout l'univers du bien-être, etc., etc. Donc, mais ici, pensez vraiment à la question de l'énergie comme un des critères importants de l'effectuation de bourse.
Le groupe est un système écologique, expérimentant et sélectionnant dans une infinité de rapports géographiques, sexuels, organisationnels, linguistiques, ceux qui lui conviennent à un moment donné. Le groupe est un degré de puissance, une quantité plus ou moins grande de puissance. On fait ce que l'on peut à partir de l'intensité que l'on a. La question dès lors n'est pas ce qu'est un groupe, quelle serait sa substance, ou son essence, et ses fondements, mais bien ce que peut un groupe. Du régime de la morale, on passe à celui de l'éthique. S'agencer à l'événement, c'est donc épouser des signes, c'est comprendre leur sens et effectuer leur devenir. Autrement dit, être aux aguets des signes qui nous traversent, sentir les redistributions de désirs et les mutations qui en découlent, et enfin tenter de les accueillir,
de les actualiser. Le problème est bien à partir de la vieille question traditionnelle au cœur même de la philosophie occidentale, la vieille question des rapports entre sujet et vérité. Question que j'ai posée, reçue d'abord dans les termes classiques et habituels, traditionnels, c'est-à-dire à partir de quelle pratique et à travers quel type de discours a-t-on essayé de dire la vérité sur le sujet ? Ainsi, comment, à partir de quelle pratique, à travers quel type de discours, est-ce qu'on a essayé de dire la vérité sur le sujet fou ou sur le sujet du délinquant ? À partir de quelle pratique discursive est-ce qu'on a constitué comme objet de savoir possible le sujet parlant, le sujet travaillant, le sujet vivant ? Bon, c'est tout ce champ d'études que j'ai essayé de parcourir pendant une période. Et puis, cette même question des rapports sujet-vérité, j'ai essayé de l'envisager sous une autre forme, celle non pas du discours dans lequel on pourrait dire la vérité sur le sujet, mais celle du discours de vérité que le sujet est susceptible et capable de dire sur lui-même dans un certain nombre de formes qui sont culturellement reconnues et typé, que ce soit par exemple l'aveu, la confession, l'examen de conscience. Et c'était là l'analyse des discours vrais que le sujet tient sur lui-même et dont on a pu voir pratiquement l'importance, on connaît l'importance dans les pratiques pénales ou encore dans ce domaine que j'ai étudié de l'expérience de la sexualité.
Point matinal, point météo.
Et donc, c'est ce thème-là, ce problème-là, du dire vrai sur soi-même, qui m'a amené, dans les années précédentes et dans les cours que j'ai faits, à essayer l'analyse historique des pratiques du dire vrai sur soi-même. Et c'est en faisant l'analyse historique de ces pratiques du dire vrai sur soi-même que je me suis aperçu de quelque chose à quoi je ne m'attendais pas tout à fait. Si vous voulez peut-être sans doute un peu plus précis. Bon, il est facile de constater combien dans toute la morale antique, dans toute la culture grecque et romaine, a été grande l'importance du principe « il faut dire vrai sur soi-même ». On peut citer à l'appui et comme illustration de l'importance de ce principe dans la culture ancienne, on peut citer les pratiques, vous savez, si fréquemment, si constamment, continuellement recommandées, de l'examen de conscience par exemple, qui était prescrit chez les pythagoriciens, qui était prescrit chez les stoïciens, dont Sénèque, vous savez, a donné des exemples aussi développés, qu'on retrouve chez Marc Aurèle, etc. On peut aussi citer comme exemple et illustration de l'importance du principe « il faut dire vrai sur soi-même » un certain nombre de pratiques, comme ces correspondances, ces échanges de lettres, lettres morales, spirituelles, dont Sénèque, dont Pline le Jeune, dont Fronton et Marc Aurèle, donnent des exemples. On peut citer aussi, toujours comme illustration de ce principe, il faut dire le vrai sur soi-même, d'autres pratiques peut-être moins connues et qui ont laissé moins de traces, comme par exemple ces carnets de notes, ces espèces de presque journaux qu'on recommandait aux gens de tenir sur eux-mêmes, soit pour faire la recollection et la méditation des expériences faites ou des lectures que l'on avait pratiquées, soit encore pour se raconter à soi-même au réveil les rêves qu'on avait faits, etc. On a donc là, d'une façon très évidente, très massive, assez facile à repérer, dans la culture ancienne, tout un jeu de pratiques impliquant le dire vrai sur soi-même.
Ben oui, la spiritualité, c'est encore un de ces mots où on ne sait plus trop quoi en faire avec. C'est encore un mot qui est habité de tel univers disparate que nous, on l'a repris ici. Presque aussi comme une forme de mot à reprendre de la spiritualité, alors surtout au niveau des groupes de gauche, inscrits dans une certaine forme de laïcité. La question de la spiritualité, derrière la question de la spiritualité, on retrouve Dieu. Et puis on retrouve derrière Dieu, on trouve d'une manière très pratique l'institution de l'Église et toute cette forme politique qui a été depuis 2000 ans le christianisme. Donc il y a tout ce côté-là dont il s'agit de s'émanciper. Il y a eu toute la bagarre, toutes des grandes bagarres autour de ça et encore aujourd'hui. Et puis on trouve de l'autre côté cette forme-là qui est prise autour du New Age. Donc à partir du moment où des militants se mettent à faire de la spiritualité et se désengagent, ils commencent à penser à leur nombril et à leur bien-être au lieu de se consacrer à la lutte. Donc on a ces deux pinces-là. Dans lequel, quelque part, on hérite du point de vue de groupes de gauche constitués ou pas ici, quoi. Et de ramener la question de la spiritualité, d'un certain point de vue, ici, comme une manière de faire vaciller, de questionner certaines dimensions des agencements de groupe, nous vient par deux univers. Il y a le premier univers qui est celle de Starhawk, militante féministe américaine, pacifiste, qui, dans la fin des années 70, a eu besoin de renouer avec une histoire qui a été détruite, c'est celle des sorcières, et de renouer avec cet univers-là pour pouvoir se donner les moyens de résister au début de la période conservatrice des années d'hiver, comme dit Félix Guattari, donc qui était de se construire des forces là où l'univers de l'émancipation et du progrès n'offrait plus, et de se donner des possibilités de traverser ce long désert en alimentant et en se donnant des possibilités de créer des nouvelles formes de manière de penser le collectif. Et ce groupe-là nous a légué tout un travail à travers Starbo autour de cette question. Mais alors là, on est déjà dans une reprise de la spiritualité qui est immanente, qui est au même le processus où la spiritualité et politique deviennent conjonctifs, s'allient, se travaillent. On n'est plus dans une spiritualité qui est quelque chose comme extérieur à soi, auquel il s'agit de se soumettre. Et puis l'autre entrée de cette question de la spiritualité est Foucault, le dernier Foucault, où il dit cette phrase dans l'herméneutique du sujet, qui est une phrase importante, chaque penseur a ses ennemis et ses lieux stratégiques, et Foucault voit en Descartes, dans le moment Descartes, comme il dit, la rupture moderne. Là où lui, il était en train d'étudier les Grecs, où il était en train d'étudier justement la question du souci de soi chez les Grecs, comment se développe là tout un univers de techniques, de rapports à soi, pris dans les mondes politiques, dans les mondes de connaissances, etc., où ces mondes-là sont liés à une transformation de soi, ne sont pas disjoints. Et il va voir chez Descartes, dans l'événement Descartes, le moment de la rupture, où pour la première fois, dit-il, dans l'histoire de l'Occident, et peut-être par extension de l'humanité, là pour le coup, cette séparation où je peux être un grand chercheur, découvrir une vérité scientifique ou autre, et ne pas être affecté par cette découverte, ne pas être transformé par cette découverte. Là où avant, toute cette dimension de recherche de vérité ou de connaissance était toujours liée à une épreuve et une transformation de soi. Et donc cette coupure moderne, cette disjonction entre cette possibilité de développer un travail tout en n'étant soi-même pas affecté par ça, transformé par ça, c'est ce moment de Descartes pour Foucault. Et ce moment, il le nomme comme cette séparation entre politique et spiritualité. Et donc là, on entend bien et on voit, on sent une toute autre manière d'appréhender la question de la spiritualité. On retrouve là, par écho, ce que nous disent les Indiens quand ils voient l'homme blanc, les langues fourchues. Ils disent quelque chose et puis ils vont faire le contraire. Et donc c'est cette question de ce rapport entre sa manière de vivre et les manières de le penser, de penser la pensée, de penser les univers, les plantes, le cosmos, la nature, le pouvoir, l'organisation collective, qui se branche toujours sur cette épreuve de soi à l'intérieur de cette rencontre avec les autres. Les autres qui sont du coup un univers plus réel, qui sont faites de tout ce qui entoure, de tout ce qui sont les astres. Voilà, c'est cette dimension-là de la spiritualité qui nous intéresse, et dans les processus de groupe, elle est claire. Mais encore une fois, comment se fait-il qu'on est arrivé à penser nos agencements de réunion ou d'organisation politique où le corps est absent de ça. C'est-à-dire le corps, c'est à partir du corps qu'on se met à penser. Donc, c'est nerveusement qu'on sent d'abord les choses, affectivement qu'on sent les choses. Après, ça peut se traduire par des mots, par la conscience, comme on dit, mais ça passe d'abord par une forme de... d'agencement corporel, affectif, émotionnel. Et cette rupture-là, cette cassure-là, bon, on est encore héritier de ça. Et Starock, comme Foucault, le dernier Foucault, nous rappelle cette importance-là. Et donc le terme spiritualité renvoie à cet univers-là et renvoie aussi à quelque chose comme une polémique, là, dans le sens de quel est ce mot-là qui a été banni des agencements collectifs et le fait de le bannir, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie dans nos univers à nous? Et que peut-être qu'on a besoin justement de cet univers-là. Et que le fait de ne plus l'avoir, ça nous rend faible. Ça nous rend incapable à résoudre un certain nombre de questions ou à affronter tout simplement un certain nombre d'épreuves qui nous arrivent collectivement.
Pragmatique, attention à l'efficace. Vous n'avez pas de déesse, pas encore. Mais par contre, vous cultivez des artifices qui évacuent la maison. Expérimenter des composantes de passage, se donner des repères et des manières de faire collectif. Cela exprime la volonté d'exercer ses gestes et sa pensée à de nouvelles façons de vivre et de sentir. La prétention des artifices se situe là, non pas pour eux-mêmes, mais dans le mouvement qui nous contraigne d'épouser. Dans ce qui nous oblige à produire comme décalage, dans ce qui nous force à chercher. Certains Grecs anciens, disait Deleuze, dans Nietzsche et la philosophie, savaient que la pensée ne pense pas à partir d'une bonne volonté, mais en vertu de forces qui s'exercent sur elle, pour la contraindre à penser. Nous ne penserons pas tant qu'on ne nous forcera pas à aller là où sont des vérités qui donnent à penser. Là où s'exercent les forces qui font de la pensée quelque chose d'actif et d'affirmatif. Non pas une méthode, mais une paideia, une formation, une culture.
Il s'agit de repeupler les groupes avec d'autres univers que celui de notre tête et de notre parole. Il s'agit de remettre un peu des richesses à l'intérieur de tout ça. Donc tout ce qu'on a mis hors de l'univers politique, il s'agit de le faire revenir différemment et de voir à travers chaque objet qu'est-ce qu'ils vont produire localement. C'est toujours des histoires locales. Et que le fait, par exemple, d'inventer pour tel problème de groupe un objet technique, ou prendre un objet technique, de le faire exister là, à quoi il nous rend sensible, à quoi il nous permet de faire attention que s'il n'existait pas, on tomberait vite dans nos habitudes qui répètent tel type d'agencement auquel on veut sortir. Donc c'est pour le coup de faire confiance aux objets, de rentrer dans une forme de rapport avec eux, et que ces objets produisent. Ces artifices produisent s'ils deviennent des sujets pour le coup, produisent des effets et des transformations. Et que si on ne les avait pas, ces transformations ne s'effectueraient peut-être pas. Donc c'est chaque fois lié à des situations très particulières. C'est pas des règles qui vont pour tout et dans toute situation. Mais si par exemple il y a tel agencement de groupe qui passe par une rapidité de parole de créer un objet, un artifice qui permette là d'être attentif à ce besoin de ralentir les agencements de parole, si cet artifice là, il faut, c'est toujours une question de mise à l'épreuve et d'effet, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il produit, et donc à partir de cette création ça permet aussi, de cet artifice ça permet aussi de commencer à construire un peu de savoir local, parce qu'on se donne cette possibilité de se mettre à l'épreuve d'autres choses que nous-mêmes. Donc de sortir, de se décaler un peu de cette tendance à cette centralité du sujet, du moi, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il ordonne, et d'être pris dans des rapports, là pour le coup, de négociation avec d'autres objets qui passent par d'autres modes que nous. Les artifices, c'est cet exercice-là. Et comme tu le dis, la question n'est pas tellement de voir si c'est la vérité ou pas. La question, c'est très pragmatiquement, c'est quels vont être les effets de l'existence de cet artifice dans le groupe en rapport à tel problème que le groupe est confronté. Alors on pourrait dire, tiens, ça circule trop vite et est rentré dans une grande histoire de pourquoi ça va trop vite, pourquoi on parle trop vite, etc. On crée tout un séminaire sur ça. Mais notre question, elle est prise dans des là, tu utilisais le terme efficace, donc dans des dimensions où ce problème-là, il s'agit surtout de le balancer pour le futur. Et c'est-à-dire d'essayer de le travailler, l'effectuer aujourd'hui, maintenant, et d'apprendre avec ça. Et que ça commence à perturber, cet artifice commence à perturber l'univers langagier, l'univers collectif, ben, ça peut être intéressant. Mais bon, chaque fois, c'est des histoires locales. Et c'est à partir de tous ces petits univers d'apprentissage où on devient différent par ses rôles, ses artifices ou ses techniques comme les pas de côté, qu'un groupe commence à apprendre un peu sur lui-même. Un groupe où les différents individus qu'il compose et commence à apprendre un peu sur lui-même et peut commencer à partir de ce savoir-là d'aller rencontrer les autres. Et dit, tiens, nous on a essayé tel truc, ça a marché là dans telle situation, etc. Vous, comment vous faites pour régler tel problème, ou quand vous êtes confronté à tel truc, comment vous organisez
C'est difficile à concevoir cette connexion entre la localité, tu insistes sans cesse sur le local, sur ça peut rater, expérimentation in situ, et puis la possibilité de collectivisation.
Ouais, tout à fait.
Tu parles de recettes, vous parlez de recettes dans le livre.
Ouais.
Une recette, ce n'est pas une méthode. Vous parlez de culture des précédents.
Ouais.
Faire référence à Deleuze et son concept, disons, de science mineure.
Ouais.
Donc, localité, collectivisation, protection, soin in situ, et puis envol dans le dehors.
Ouais, c'est, je crois que le terme de recette, il est, encore une fois, c'est un terme conflictuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rejeter la recette dans cette idée d'une méthode à appliquer. Or, là, pour le coup, il faut être, pour moi, très directement lié à l'art culinaire. comment une recette s'effectue et comment, quand on va la transmettre à quelqu'un, tiens, j'ai réussi tel plat, je l'ai fait, ah, tu l'as fait comment, je l'ai fait de telle manière, j'ai mis tel ingrédient, etc. etc. Et dans cette transmission-là, locale de savoir, quand la personne va essayer de faire la recette pour elle-même, elle va le transformer. Elle va l'utiliser autrement, parce qu'elle n'a peut-être pas tous les ingrédients, ou elle va rajouter d'autres ingrédients, et puis tu as toute l'atmosphère, tu as le feu qui est différent, tu as les poêles, tu as l'ambiance de la pièce, qui fait que le goût de ce qui va en sortir va être différent. Donc il va y avoir de toute façon toujours reprise autrement que... Il y aura toujours traîtrise, dans le bon sens du terme, de ça. Donc il n'y aura jamais application. Il y aura point de repère, et ces points de repère, chaque fois localement, vont être transformés, modifiés, selon l'univers qui habite là. Et cette question de ce passage entre ce que j'ai appris, ce que nous avons appris dans un groupe, c'est ça, sur nos agencements collectifs. Comment vous avez appris par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner, dans le sens de nous transmettre quelque chose? Mais ces passerelles-là vont être toujours prises dans des relocalisations. Donc il y a quelque chose qui va se tester à un endroit, qui va être repris et bifurqué, enfin, qui va être transformé ailleurs. Donc c'est pas une recette n'est pas une théorie, dans le sens où la théorie peut avoir de temps en temps un peu trop de prétention à vouloir s'appliquer partout et dans tout.
Une forme de morale.
Et la recette est toujours branchée à des modes d'existence et à des modes d'effectuation particuliers. C'est la manière dont nous, on bricole avec les rôles, n'a sans doute strictement rien à voir avec la manière dont Starhawk et son groupe bricolent avec les rôles. Et que peut-être, j'en sais rien, si je vais chez elle en Californie et que je vois la manière dont elle se branche avec les rôles, ça ne va pas du tout me parler. Là, il y a un truc, ça arrive, c'est déjà à Bruxelles, pris dans un groupe qui a une telle histoire, pris dans... Et donc on va jouer les rôles, on va se mettre à s'exercer là-dedans à notre manière. Et on va éprouver et mettre les mots correspondants à cette manière d'éprouver les rôles qui nous correspondent à nous singulièrement. Après, ça peut circuler autrement, différemment là-dedans. C'est toute la question de... C'est une question difficile, une question des usages et... toujours liés et puis leur passage où ils sortent cette dimension entre guillemets d'une certaine forme d'objectivation d'une expérience. Comment on fait en sorte de résister quand même à une certaine forme d'objectivation pour pas que ça devienne justement une loi au sens moral du terme, qui doit s'effectuer partout, et comment en même temps on fait en sorte que ça sorte suffisamment du groupe pour que ça puisse commencer à circuler ailleurs. Donc c'est dans ce filet-là, dans cet entre-deux-là qu'il s'agit de construire. Mais que les groupes commencent à s'agencer de cette manière-là, on aura fait un bond, j'ai l'impression, qualitatif, en termes d'une forme de culture qui fait attention aux soucis de soi, un soi ici qui est autant collectif qu'individuel, et que peut-être on discutera autrement aussi des idées politiques, et qu'on sortira en tout cas, mais ça je crois qu'on est déjà, en tout cas pour un certain point sorti, des rencontres politiques qui ne s'agencent que sur des points de doctrine. Et donc, est-ce qu'on respecte bien le cahier des charges défini par tel auteur ou défini par tel groupe politique, et que c'est ça qu'il s'agit de faire. C'est que les idées deviennent aussi, et pour le coup, chaque fois locales. Et que ça soit à ce niveau de ces bricolages collectifs, de ces recettes qui s'expérimentent et qui peuvent après s'exporter, ou en tout cas devenir justement des cultures. Voilà, face à un problème du pouvoir dans le groupe, nous on a travaillé de cette manière-là. Comment vous l'avez travaillé? On l'a travaillé autrement et ça a marché. Oui, comment, etc., etc. Donc, qui est quelque chose qui est des formes d'almanach, des formes de... Nous on a réussi ça, on a été confronté à ça. Dans le rapport aux subsides, aux fric, comment on développe? On en a besoin. On a besoin d'un peu d'argent, mais alors se mettre dans les rapports avec les pouvoirs publics. Bon, ok, mais alors on n'est pas dans des généralités. On sait qu'il y a une panoplie de modes de subvention différents qui impliquent chaque fois des effets différents. Entre la reconnaissance de son association comme éducation permanente, par exemple, qui implique un travail comptable, administratif, des contraintes, etc., importantes, et de recevoir de temps en temps pour des formations 1000 euros ou 2000 euros, avec juste une feuille à remplir, et il y a une différence qui est grande. Donc quand on parle de ça, c'est chaque fois local. Mais comment on se débrouille avec ça, et donc c'est plus des questions générales, je suis contre les subsides, je suis contre l'argent, mais comment ça passe? L'argent, on l'a dans les groupes. Tout le monde vient avec du pognon, ou à des... dans ses poches, je veux dire, ou à des univers derrière lui, des héritages ou pas, donc le rapport à l'argent est différent chaque fois. Donc c'est de rapatrier toutes ces questions-là à... Mais chaque fois, comment on se débrouille? Qu'est-ce qu'on invente là? Et comment on pense ça? Comment on va résister à la culture du grand écart? Par exemple, dans le rapport avec l'État et les subsides. Où on écrit des rapports où on singe, où on fait semblant d'eux. Mais comment, à force de singer, on n'est pas pris par cette propre culture? Et être infecté par les mots qu'on dit que c'est pas pour nous. Nous, on fait autre chose. Mais on dit ça pour eux. Mais comment ces mots qu'on croit dire pour eux ne deviennent pas les mots pour nous? Et c'est tous ces écarts-là, et comment on va résister à ça, ne pas se croire plus malin. Un groupe, au début, va se croire plus malin. Il y a une double stratégie, il n'y a pas de problème. On est, alors, là, peut-être, le groupe, au début, est physiquement... capable de plus grande gymnastique, et puis après il peut se fatiguer, et qu'est-ce qui va s'opérer, comment il va résister à, comment il va bifurquer à un moment donné, comment il va refuser de continuer une logique ou pas, parce que cette logique entraîne tel les effets sur sa pratique. Comment il va se mettre à penser ça, et autour de quoi, de quel objet, enfin, et c'est ce genre d'histoire-là, entre autres. On a besoin. Donc, et comment ça va circuler de groupe en groupe. À travers ça, on pense le rapport entre soi et l'État. On peut l'aborder à partir de textes théoriques. Quel est le rapport à l'État? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire avec l'État? Est-ce que la stratégie de la prise de l'État est une bonne stratégie politique ou pas? On peut l'aborder par rapport à ça. On peut l'aborder du point de vue de comment on se rapporte, nous, déjà nous-mêmes, et vis-à-vis de tout ce qui nous lie à ces formules. Et de le prendre à partir de ça, et des problèmes qu'on rencontre très physiquement dans le groupe. Et des problèmes qu'on se pose, comment on va les aborder, comment on essaie de les transformer, et ça passe comment? Et ça peut faire des débats où, quelque part, sensible et politique commence à voyager, où, on va dire, l'élément charnel de cette question s'exprime dans la discussion. On ne sait pas d'où part une personne. On commence à savoir d'où part cette personne, dans quoi il est pris, dans quelle bagarre, questionnement, à l'intérieur de son groupe, etc. Et c'est à partir de là qu'il commence à envisager un certain nombre de rapports. Et trop régulièrement, les réunions ou les rencontres là, entre groupes, s'effectuent avec cet oubli-là. Et donc, on ne sait pas d'où parle la personne, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il dit ça, pourquoi il a besoin de se référer à tel texte pour dire que c'est ça qu'il doit faire.
Est-ce qu'on y échappe aux doctrines ? D'aucuns diraient que ce livre est résolument, et la politique des références, disons, est assez identifiable, même si ça échappe. On essaie toujours.
Alors, si c'est comme ça, j'essaie juste de dire processus. Peut-être est-ce que c'est un peu plus clair. Quelque chose nous arrive, quelque chose nous emporte. Toute la question d'une analyse, qui ne serait pas une psychanalyse, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quelle ligne traces-tu ? Je veux dire, pour moi, l'analyse, ça ne peut être, ça n'est ni une interprétation, ni une opération de signifiance. C'est un tracé cartographique. Si vous ne trouvez pas les lignes qui composent quelqu'un, y compris ces lignes de fuite, vous ne comprenez pas les problèmes qu'il pose ou qu'il se pose. Or, en effet, des lignes de fuite, vous comprenez, c'est pas uniforme, hein. La manière dont quelqu'un... vous comprenez, ligne de fuite, même, c'est une opération ambiguë, je dis, c'est ça le processus. C'est ça ce qui nous emporte. Évidemment, ça veut dire que pour moi, les lignes de fuite, c'est ce qu'il y a de créateur chez quelqu'un. Les lignes de fuite, c'est pas des lignes qui consistent à fuir, bien que ça consiste à fuir, mais c'est vraiment la formule que j'aime beaucoup, hein, d'un prisonnier américain qui lance le cri « Je fuis, je cesse pas de fuir, mais en fuyant, je cherche une arme. » Je cherche une arme, c'est-à-dire je crée quelque chose.
Ce qui s'oppose à la fiction, ce n'est pas le réel. Ce n'est pas la vérité, qui est toujours celle des maîtres ou des colonisateurs. C'est la fonction fabulatrice des pauvres, en tant qu'elle donne au faux, la puissance qui en fait une mémoire, une légende, un monstre.
On hérite de différentes manières de ce qui existe et on essaie de le faire jour, de le faire séance. La discussion qu'on avait tout à l'heure sur les mots et la psychanalyse, sur le désir comme manque, et puis cette réarticulation qu'on a effectuée autour de penser le désir à partir plus de l'excès, de ce qui... Bon, c'est s'inscrire dans un rapport, et de le cultiver. Si on pense les agencements collectifs à partir de modes de construction, c'est que pour nous, ça nous donne une capacité à. Donc, ça, de ce point de vue-là, ça nous arrange, très concrètement. Si nous étions incapables de faire ce qu'on dit, il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Si on essaye d'éprouver ces mots, d'éprouver ces formes d'héritage, d'éprouver ces formes de récits qui nous viennent, qui nous sont transmis par d'autres et qu'on essaie de voir comment ils se branchent avec nos modes d'agencement collectif. Si on ne faisait pas ça, il y aurait un solide twist. Si pour nous s'agencer à ces cultures-là qui pensent la question des communs comme mode de construction, comme devenir, qui deviennent attentifs aux détails, qui deviennent attentifs aux modes de potentialité, de capacité qui se font, donc, tous ces mots qu'on va retrouver dans cette culture-là, et que par ailleurs dans nos groupes on ne sentirait pas ça, on n'éprouverait pas, il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Pour nous on l'éprouve, ça, pour nous ça nous, très concrètement c'est quelque chose qui nous arrange, parce que ça nous permet de penser un certain nombre de choses que si on ne l'avait pas on ne penserait pas, et donc de devenir attentif à. Et voilà, après, il s'agit de résister à la question des écoles. Il s'agit de résister aux écoles, encore une fois, pas ériger ça en termes de dogme, de c'est ça qu'il s'agit de faire, c'est, si on ne fait pas ça, on est nul.
Ici, nous n'y croyons pas à la parole. Nous ne nous y fions pas. Nous nous intéressons à ceux qui veulent bien se demander sérieusement ce qu'il adviendra de leur manière d'être une fois qu'ils auront mis la parole au rancard de l'établi. Ceux aussi qui ont gardé de leur passage dans les institutions politiques ou psychiatriques, répressives ou progressistes, le souvenir que la parole y est bien pour quelque chose. Non seulement dans leur fonctionnement manifeste, mais aussi dans leur fin inavouable, jusqu'au point où c'est la parole elle-même qui se prend pour fin. Ceux aussi qui ont acquis la certitude que le langage, c'est comme l'atmosphère. On en respire, mais ça se pollue. Que toutes les causes communes finissent par s'y enliser, et qu'il faudrait peut-être les terminer, ces causettes, et se tirer ailleurs, pour voir si par hasard, autre chose ne nous serait pas commun. Fernand Deligny, dans Recherche numéro 18, Cahier de l'ignuable numéro 1, Voix et voir.
Sa pratique lui-même, il se met à travailler avec les autistes, et donc toute cette invention qu'il doit effectuer, toutes ces recherches qu'il ouvre pour se mettre en rapport autrement, et donc toute cette perspective qu'il nous offre. Je rêverais de faire un travail un jour avec des sourds-muets. Il y a une forme de langage, mais quelles sont justement l'utilisation de cette forme de langage entre eux, quels sont les effets, qu'est-ce que ça produit au niveau d'un groupe. Qu'est-ce qui s'effectue là par le langage des signes, et est-ce qu'on va retrouver sous des mêmes modes des choses qu'on va avoir avec les mots, avec toute cette pollution, comme dit Deligny, de ces mots, cette atmosphère étouffante du langage parlé. Et bon, et chez nous, dans nos pratiques, c'est toute la question du silence qui devient important, mais par extension, c'est le silence, mais aussi, paradoxalement, de faire parler d'autres objets qui sont considérés par nous comme silencieux. Et là, on revient à la question des artifices. C'est de faire parler sous leur mode spécifique, de faire parler des objets qu'on considère comme silencieux. et comment cette forme de dialogue vient perturber nos formes de dialogue à nous. C'est, donc par extension, cette question du silence, qu'on pourrait envisager dans les groupes comme une dimension importante, comme un mode de rapport à, qui ne s'effectue pas sous l'habitude de la parole, mais que ce mode a à avoir place, à habiter le groupe en lui-même. Mais il s'agit aussi d'étendre ça à d'autres choses, à tout ce qu'on est capable d'inventer, qu'on considère nous en tant qu'humains, qui n'a pas de parole et n'a pas d'effet sur nous, vu que ce ne sont que des objets extérieurs à notre réalité, et que nous sommes les maîtres de ces objets-là. Donc cette fabrication moderne de ce rapport à l'extérieur de soi, au langage, à la conscience, et en quoi une statuette qui va être mise au centre de la table va se mettre à agir et à parler à sa manière, à ouvrir des perspectives. C'est toute la question de repeupler nos univers.
Frédéric Nera parle de fort silence. Et je réagis par rapport au fait que tu emploies beaucoup le mot objet, même s'il est chevelu, ou quasi objet. Il s'agit de faire un groupe aussi peut-être devant les rats qui crèvent. Et qu'en est-il des plantes, des vivants, des animaux, silence des bêtes, soi-disant silence des bêtes.
Mais c'est ça, bon, encore une fois, on est piégé dans les mots, sujet, objet. Un artifice devient sujet à partir du moment où on commence à agir. En même tout que nous, on devient l'objet de cet artifice. Donc c'est le problème de... Faut inventer là encore pour le coup des nouveaux mots, des nouveaux univers qui fassent circuler autrement ces rapports entre tout ce qui constitue un groupe, tout ce qui constitue un univers, et que tous ces univers se mettent en relation et en rapport. Et ce serait de penser ces rapports à l'intérieur de tout ça, et donc les rapports... Après la question de la plante, de l'animal, tout ça, ça va être mis, comment ça va rentrer dans les agencements de groupe, de notre question. Et il ne s'agit pas pour nous de commencer à dire que cette plante qui est ici, on va la mettre là et que ça va avoir des effets directement parce qu'elle est là. Oui, ça va être ça dans la construction d'un... Je veux dire, la construction d'un espace, comment un groupe va penser son univers, par exemple son local, ses pièces, comment ils vont penser cet univers-là, avec, en termes de couleurs, en termes de lumière, en termes de tout ce que, peut-être d'animaux ou n'importe quoi, ça va avoir énormément d'effets sur le groupe. Dans les constructions collectives, ou comment nous on pense la question de l'artifice, ça va être chaque fois l'utilisation pragmatique d'un univers, d'un artifice qui va s'agencer à un type de problème rencontré. Si une plante vient et qui rapporte et qui est ramenée à un type de problème dans le groupe qui, sans cette plante, ne pourrait pas vivre, donc cette connexion qui se crée là, ce rapport-là, c'est là que ça nous importe, dans ce nouveau rapport que ça va se produire. C'est pas... tu vois ce que je veux dire, c'est pas le... Encore une fois, c'est juste de résister au mode d'extension. c'est comme dans les groupes, s'il y a un groupe de 4 personnes et qu'il y a 12 rôles qui sont proposés dans le groupe, on ne va pas dire qu'il faudrait que chacun ait 3 rôles. Il s'agit localement de voir qu'est-ce qui est intéressant et important pour un groupe par rapport à telle et telle et telle chose. Et ces univers de rapatrier le monde autour de soi et de faire vivre le monde autour de soi ou à travers soi, c'est chaque fois en rapport à des types de construction qui s'opèrent. Parce que, bon, voilà. Donc, si chez Starhawk, l'univers du cosmos et des dieux est important et il rapatrie ça dans son groupe, ça, c'est un mode d'agencement pour eux, pour faire vivre telle ou telle chose, que ça a de l'importance pour nous. En tout cas, dans les pratiques dans lesquelles moi je m'inscris, ce rapatriement pour l'instant n'a pas lieu, n'existe pas. Ce n'est pas pour ça qu'il ne pourra pas exister. Là, je suis en train de travailler un peu sur essayer de rapatrier dans les histoires de groupe la figure de Saint Jean par rapport à l'Apocalypse, donc le livre de la Bible, par rapport à incarner cette figure-là autour de la question du jugement. Et donc Saint Jean, j'ai envie de le faire exister comme figure que je porterai avec moi et qui serait mis là dans des interventions de groupe que j'effectue comme élément rappelant cette histoire du jugement, cette construction. Et c'est une figure incarnée de Saint Jean comme élément de là comment on résiste au jugement. Et le jugement là passerait par une figurine qui symboliserait Saint Jean, par exemple. Mais donc là, c'est pris dans cette culture très particulière qui et dont on hérite dans la culture occidentale de cette manière de dénoncer l'autre dans les groupes et de se mettre et de s'ériger comme juge. Donc cette figurine, ce saint, là je le vois dans ce rapport-là, dans cette question de résister à. Et comment cette présence peut nous amener à balbutier sur un certain mode de fabrication.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que, dans nos collectivités, les savoirs qui auraient pu constituer une culture des précédents soient aussi peu présents? Que pourrait-il se passer si une attention était désormais portée à ces savoirs que fabriquent les réussites, les inventions et les échecs des groupes?